prendre le temps de la réflexion, car en effet, Dieu est au ciel, comme le dit le psaume 115, et il fait ce qu'il veut. Face au choix de Dieu, nous devons entendre ce beau conseil d'un docteur de la loi, Gamaliel, qui disait au sujet des disciples de Jésus, si une chose vient de Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Si elle ne vient pas de Dieu, elle va partir. Mais si elle vient de Dieu, nous ne pouvons rien faire sinon l'accueillir et la recevoir pour ne pas nous trouver à combattre contre Dieu. Et la Tob traduit pour ne pas nous trouver à être en guerre contre Dieu, c'est dans Actes au chapitre 5. Dans notre psaume, en effet, il est question d'un choix, et que ce choix est fait par Dieu et par Dieu seul. Le choix de son Messie, c'est lui, celui que Dieu a choisi pour être son oint, son roi, celui qui l'a oint pour son œuvre. Notre psaume est appelé le psaume d'intronisation, qui est lu au moment où les rois sont intronisés, ou un nouveau roi est intronisé publiquement. S'agit-il du roi David ? Le Nouveau Testament, en effet, attribue ce psaume à David dans Actes chapitre 5, chapitre 4. Mais en même temps, lorsqu'on regarde les circonstances dans lesquelles David a eu accès à son pouvoir, à son trône, il n'existait pas des peuples qui pouvaient vraiment être susceptibles de se rebeller. Peut-être s'agit-il de Salomon. Il est vrai que pour Salomon, les circonstances de son intronisation, il y avait plus de difficultés et des peuples pouvaient se révolter à ce moment-là. C'est dans le premier livre du roi, chapitre 1, si vous voulez regarder cela de très près. Et en plus, c'est au sujet de Salomon aussi que le prophète Nathan avait dit à David, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » dans 2 Samuel au chapitre 7. En tout cas, nous avons ici au psaume 2 le contexte d'intronisation d'un nouveau roi. Et à cette occasion, il y a certains gestes qui sont accomplis. Il y a certains actes qui sont posés, comme par exemple l'onction d'huile, qui est évoquée au verset 6, ou encore la proclamation de ce décret divin, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » au verset 7. Lors de cette cérémonie d'intronisation, le Seigneur confirme en effet publiquement le choix qu'il avait fait, peut-être en privé. Il confirme publiquement le roi qui sera censé donc le représenter sur la terre. Et le Seigneur, à cette occasion, adopte ce roi en faisant de lui son fils. Le premier roi que le Seigneur choisit et qui est l'auteur de ce psaume d'après le Nouveau Testament, c'est bien sûr David. Certes, avant David, il y avait un autre roi, c'est Saül, comme premier roi d'Israël, mais il a été demandé par le peuple, choisi par le peuple, selon les critères du peuple, et le peuple venu voir Samuel, lui demandant de lui donner, de lui réclamant un roi. Samuel le prend mal, mais très rapidement le Seigneur lui dit de céder, lui demande de céder à la demande du peuple, et c'est ainsi que Saül a été oint comme le premier roi d'Israël. Suite à sa désobéissance, le Seigneur envoie le prophète Samuel chez la famille de Jissé et il lui demande de oindre l'un de ses enfants pour devenir le nouveau roi d'Israël. Et au chapitre 16 du premier livre de Samuel, le chapitre 16 du premier livre de Samuel raconte la désignation et l'onction qui a été donc donnée à David, la désignation de David et l'onction qui lui a été donnée pour être le nouveau roi choisi par le Seigneur. Il est intéressant de relever la manière dont les choses se sont déroulées très brièvement. Jissé, donc le père de David, a fait passer tous fils devant le prophète Samuel qui est venu pour oindre l'un de ses fils. Eliav, l'aîné, s'est approché et dès que Samuel l'a vu, il se dit c'est lui le roi que Dieu veut oindre, que Dieu veut choisir, consacrer pour son peuple, parce qu'il a une belle apparence physique et une taille imposante. Mais ce jour-là, le prophète va apprendre une belle leçon de la part de son Seigneur. Il lui dira, « Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe l'œil, mais le Seigneur regarde le cœur. » C'est dans 1 Samuel, chapitre 6, verset 7. Même le grand prophète, comme Samuel, s'est laissé tromper par un regard, quelque chose qui frappe le regard, un regard extérieur. Les 7 fils de Jessé passent devant Samuel, mais le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Il reste un fils que Jessé n'a même pas mentionné au prophète si celui-ci ne lui a pas fait la demande. C'est le plus jeune de ses frères, David, qui était envoyé paître le troupeau. Pour Jessé, si Dieu veut choisir l'un de ses fils, c'est normal. Il choisirait pour lui certainement l'aîné, mais surtout pas le dernier. Et en plus, ce dernier, visiblement pour son père, n'est bon qu'être derrière le troupeau. Ce sentiment de mépris de la part un peu de la famille de David va se confirmer par la suite et se manifestera encore lorsque David aura affaire à Goliath. David se voit simplement dénigré, critiqué, soupçonné par ses frères. C'est dans 1 Samuel chapitre 17. Et pourtant, c'est celui-là que le Seigneur va choisir, c'est David que le Seigneur va choisir et qu'il va consacrer pour être le roi et pour son service. Ce n'est pas pour autant que la résistance est terminée pour David. À l'âge de 30 ans, à la mort de Saül, il est intronisé à Hébron. Mais il ne va être roi sur tout Israël qu'après 7 années et demie de règne juste sur Juda, la tribu de Juda, sa tribu. Il faut attendre donc 7 ans et demie pour régner sur, pour être reconnu comme roi sur tout Israël. Et ce sera à Jérusalem. Le Seigneur a choisi David, même si ce choix n'a pas été celui de sa famille, ni celui du peuple, visiblement, et encore peut-être moins celui du père de David. C'est de David, entre autres, que le Seigneur dit, « Moi, j'ai consacré, j'ai sacré, j'ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Avec le « moi » au début du verset 6 de notre psaume, le Seigneur affirme avec force à celui qui veut l'entendre, bien sûr, que c'est lui et lui seul qui décide, qui choisit, qui consacre, qui investir et qui mettre à son service. Le Seigneur dit clairement que c'est lui et lui seul qui décide de ses plans et qui appelle les personnes qu'il veut mettre à son service pour accomplir ses projets. Le Seigneur ne choisit pas seulement les rois d'Israël appelés à être, à représenter Dieu, à appeler, à exercer ou à accomplir la volonté du Seigneur, même les rois païens. En tout cas, il est question dans le livre d'Ésaïe du roi Cyrus que le Seigneur a choisi et sur lequel le Seigneur dit que je l'ai oint pour accomplir aussi mon projet, mes décisions. David, tout comme les rois que le Seigneur choisit, s'est choisi pour son peuple, pouvait dire donc le jour de son investiture, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils et aujourd'hui je t'ai engendré. Par ce décret d'investiture, le roi entre pleinement dans ses fonctions pour être au service de son Seigneur et pour être aussi au service de son peuple. Et en ce jour solennel, le roi est adopté par Dieu selon la promesse faite à David dans l'oracle de Nathan où le Seigneur fait des rois d'Israël ses enfants. Et il est un père pour eux. David, comme les rois qui viendront après lui, seront en effet choisis par le Seigneur, les rois de Juda, malgré les résistances et les oppositions qui peuvent se manifester ici ou là. Le fils de David, le roi par excellence, promis par le Seigneur, sera lui aussi rejeté par les hommes. Jésus-Christ est le fils de David, nous dit le Nouveau Testament. Il est le rejeton de la racine de David. C'est lui qui est venu pour chercher et sauver les perdus. C'est lui qui a donné sa vie en rançon pour beaucoup. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice, écrit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. C'est aussi lui qui est venu nous réconcilier avec Dieu et qui a fait de nous des enfants adoptifs de notre Dieu, pouvant appeler notre Dieu notre Père et être ses enfants. Et pourtant, il a été rejeté. Il est cette pierre rejetée par la main des bâtisseurs, dit le Nouveau Testament. Il a connu l'opposition, la résistance, dès le début de son ministère terrestre, et ce, jusqu'à la fin, même jusqu'à la croix. Oui, cette période, justement, s'approchant de Pâques, qui ouvre cette semaine, aujourd'hui, qui est le dimanche des Rameaux, qui ouvre cette semaine sainte, cette semaine pascale, nous rappelle, en effet, le rejet du Christ par le monde. Pour les chrétiens de Jérusalem, l'opposition qu'il rencontre à cause justement de Jésus n'est autre que l'accomplissement de notre psaume. Et ils disent dans leur prière, dans acte 4, verset 25, « C'est toi, Seigneur, qui as dit par le Saint-Esprit, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, pourquoi cette agitation parmi les nations? Pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. Pourquoi ?» Ils poursuivent en disant, en effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et le peuple d'Israël, ont formée dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Les auteurs du Nouveau Testament, les apôtres, dans leur prière, sous l'inspiration du Saint-Esprit, comprennent que le Christ est le Messie choisi par le Seigneur, rejeté par les humains. Et en même temps, ils indiquent dans la suite de leur prière que cette ligue contre le Messie du Seigneur, celui que Dieu a choisi, ne peut contrer les plans de Dieu. Bien au contraire, ils participent à l'accomplissement de la volonté de Dieu, à l'accomplissement des plans de Dieu. Ils n'ont fait que, disent-ils dans leur prière, tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et dans ta volonté. Rien et personne ne peut en effet mettre en échec les plans de Dieu, car il est le Seigneur, le Maître, celui qui déclare par le prophète Isaïe que dès le commencement j'annonce l'avenir et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis mon dessein s'accomplira, j'exécuterai tout ce que je désire, tout ce que j'ai déclaré, je le fais venir, et ce que j'ai résolu, je l'exécuterai. Isaïe 46. Nous pouvons garder en effet confiance dans le Maître de l'univers, dans le Seigneur qui accomplit ses desseins, malgré les résistances, malgré les oppositions. Le choix du Seigneur, les projets de Dieu s'accomplissent, non pas seulement lorsqu'il s'agit des décisions importantes qui engagent l'avenir de l'histoire d'une manière considérable, comme c'était le cas de David ou encore de Jésus, mais les projets de Dieu s'accomplissent aussi lorsqu'il s'agit de notre vie à chacun, même si notre vie, aussi insignifiante soit-elle, notre vie. Le Seigneur nous a appelés par notre propre nom pour lui appartenir et il nous appelle à le servir selon les dons, les ressources qu'il met à notre disposition. Et si le Seigneur a rencontré de la résistance, à plus forte raison, nous. Les résistances peuvent être plus ou moins importantes, elles peuvent être de nature très différente, venir de divers horizons, mais nous devons rester fermes, fermes dans notre confiance dans le Seigneur, tout comme les premiers chrétiens l'ont été. Nous devons garder la même conviction que ces résistances, ces oppositions ne font qu'accomplir tout ce que le Seigneur avait décidé, y compris pour notre vie à chacun. Les peuples et les nations, au temps du psalmiste, n'ont pas visiblement compris cela. Voilà pourquoi ils s'agitent. Ils n'ont pas compris que les décisions du Seigneur vont s'accomplir. Voilà pourquoi ils s'agitent et ils s'insurgent contre le choix du Seigneur. Et cette attitude est incompréhensible pour le psalmiste. Et il exprime son étonnement face à cette attitude des peuples et des rois qui se liguent contre le Seigneur en disant, il commence par cela, mais pourquoi les nations, pourquoi cette agitation des nations est si grandement inutile des peuples? Le psalmiste exprime sa stupéfaction devant la folie de ces rois, de ces peuples, de se liguer contre le Seigneur et son Messie. L'attitude de ces rois est responsable de ces peuples vis-à-vis du Seigneur et son Messie se durcissent au point que de rejeter carrément l'autorité du Seigneur au verset 2 et au verset 3, d'aller encore plus loin en voulant briser les liens du Seigneur et de son Messie, en voulant rejeter leur entrave ou leur décision. Cette attitude est typique d'un vrai aveuglement de l'être humain devant le Seigneur. Souvent, l'homme pense qu'il faut se débarrasser de l'autorité de Dieu pour être bien. Mais à vrai dire, le bien-être de l'homme se trouve justement sous l'autorité de son Créateur, sous l'autorité de son Dieu, de son Seigneur. Rejeter le joug doux et léger que le Seigneur offre, rejeter les chaînes d'amour que Dieu nous manifeste, n'est autre, ne peut que nous conduire à nous mettre sous un joug plus dur et à des situations bien difficiles qui rendent les êtres humains esclaves, prisonniers du péché. La réponse de Dieu à ceux qui se liguent contre lui est double. D'abord, il rit. Il rit celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. C'est le verset 4. Ces rois qui se liguent et qui font leurs calculs, pensant qu'ils arriveront à déloger Dieu de sa place, fait simplement rire le Seigneur et son Messie et son roi. C'est ridicule de penser qu'ils vont vraiment réussir à atteindre Dieu par l'association de leurs forces, même si leurs forces sont considérables. C'est ridicule de penser ainsi. Le psalmiste souligne la différence de ce Dieu, de ce Seigneur qui est au ciel et de ces rois qui sont sur la terre. Il y a une belle image qui est employée par un commentateur qui compare ces rois en disant « Ils sont comme les minuscules habitants d'un grain de sable séparés par la voûte céleste, par une distance infinie avec leur Créateur. » Comment peuvent-ils avoir ce raisonnement, cette résolution de se liguer contre le Seigneur? Mais la réaction du Seigneur à ceux qui se liguent contre lui ne se limite pas simplement à se rire pour leur faire comprendre la folie de leur projet. Mais il intervient, il leur parle avec colère et sa fureur les épouvante, au verset 5. À un moment donné, le Seigneur dit son dernier mot. Après un temps de silence, après un temps de répit, le Seigneur intervient pour mettre fin à cette révolte humaine. Après le temps de la grâce, il y a celui du jugement, le temps où chacun devra rendre des comptes de ses actes devant le Seigneur. Voilà ce qui doit inspirer les gouverneurs, me semble-t-il, et ceux qui exercent le pouvoir dans notre monde. Savoir qu'un jour ou l'autre, ils seront tous appelés à la barre pour rendre des comptes au Seigneur, devant le Seigneur. Savoir qu'un jour le Seigneur interviendra et leur parlera avec colère s'ils persistent dans leur désobéissance et dans leur atrocité. En Jésus-Christ, Dieu a parlé non seulement aux responsables et aux gouverneurs de ce monde, aux décideurs de ce monde, mais aussi à tous les êtres humains, à tous les hommes, en les invitant simplement à la repentance, à se détourner de leur mauvaise voie et à se tourner vers le Dieu vivant et vrai pour trouver en lui un refuge, comme nous l'avons chanté. Dieu continue à faire entendre cet appel à la repentance et à la foi depuis plus de 2000 ans, et il continuera à le faire tant que nous pouvons encore dire aujourd'hui. Car nous sommes dans cette période de grâce, dans ce temps de répit, où Dieu veut voir de nombreuses personnes se tourner vers lui, se détourner de leur désobéissance et recevoir son pardon, recevoir son salut. Voilà pourquoi, si aujourd'hui, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous sommes dans le temps de la grâce, un temps où nous pouvons en effet revenir vers le Seigneur. Mais ce temps, et nous devons le savoir, la Bible le dit, ne sera pas éternel. Il prendra fin. D'où l'importance de bien réfléchir à la réponse à donner à cette invitation que le Seigneur nous adresse encore aujourd'hui en Jésus-Christ. Le temps de la grâce cédera la place à celui du juste jugement de Dieu. Et Jean, après avoir rappelé justement l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ pour nous pardonner et nous sauver, il poursuit en disant « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » C'est dans Jean 3. Chacun doit se positionner face à ce don de Dieu, à nous de voir comment répondre à cet appel de Seigneur. Recevoir son salut, Recevoir le Christ, c'est être au bénéfice de son salut. Rejeter le Christ, le moyen que le Seigneur a prévu, c'est nous mettre nous-mêmes sous le jugement de Dieu. Le Seigneur le rappelle, le prophète Ézéchiel, le Seigneur ne désire pas la mort du méchant, du pécheur, mais il veut, poursuit l'apôtre Paul, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà le désir de Dieu. Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité de Jésus-Christ. Mais c'est à chacun de prendre sa décision. Dieu ne veut pas voir les êtres humains s'entêter dans leur désobéissance. Et c'est la raison pour laquelle il invite ses rois, à la fin de notre psaume, c'est la raison pour laquelle il invite ses rois qui se sont légués contre lui et contre son Messie à avoir de l'intelligence et à se laisser corriger. Au verset 10, le psalmiste adresse cet appel. Roi, soyez intelligent. Soyez intelligent, laissez-vous corriger. Le psalmiste invite ses rois à renoncer à leur attitude complètement insensée. Leur attitude complètement insensée pour se conduire d'une manière intelligente, d'une manière sage. Ils sont invités à accepter humblement l'autorité de leur Seigneur, du Seigneur et de son Messie. Se conduire d'une manière intelligente et d'une manière sage conduit simplement à servir le Seigneur avec crainte, le verset 11. C'est-à-dire avoir la conscience que le Seigneur n'est autre que le Seigneur, le maître de l'univers qui fait ce qu'il veut et que personne ne peut s'opposer à lui. Se conduire d'une manière intelligente et sage permet à ses rois de savoir que le Seigneur punira leur désobéissance, comme eux d'ailleurs punissent les désobéissances de leurs sujets. Lorsque leurs sujets se désobéissent dans leur royaume respectif, ils les punissent. Ils doivent donc comprendre que leur désobéissance sera aussi punie par le maître de l'univers. L'intelligence conduit à reconnaître la souveraineté du Seigneur et de recevoir humblement, joyeusement même, ses instructions. L'intelligence conduit aussi à se soumettre à ce Seigneur, à lui obéir, contrairement à ce que ses rois ont fait jusqu'ici, à savoir s'insurger et conspirer contre le Seigneur et son Messie. Mais si ces rois continuer à refuser de se soumettre au Seigneur, s'ils persistent dans leur obstination et dans leur rejet du Seigneur et de son Messie, ils périront en chemin, sans avoir pu atteindre cette montagne de Sion qu'ils se proposaient d'attaquer, parce qu'ils se sont mis en marche, aller à la montagne de Sion, où ils veulent combattre le Seigneur. Et le psalmiste leur dit, si vous continuez dans votre désobéissance, vous n'allez même pas atteindre la montagne de Sion et vous aurez vos comptes avant l'arrivée à cette montagne. Il avertit très clairement au verset 12 que bientôt la patience de Dieu fera place à sa colère si la soumission n'est pas au rendez-vous. Le délai est accordé par le Seigneur et le délai qui est accordé par le Seigneur n'est pas expiré et le moment est toujours là pour pouvoir se tourner vers le Seigneur, d'où l'appel de ce psalmiste à ses rois en disant « Mais soyez intelligents et arrêtez de s'obstiner contre le Seigneur. » Le Nouveau Testament élargit encore cet appel pour l'adresser non seulement aux rois et aux dirigeants de notre monde, mais à tous les êtres humains. « Repentez-vous, convertissez-vous, croyez, car le royaume de Dieu est proche, proclame Jésus. » Ce sont les premières paroles que Marc met dans la bouche de Jésus dans son évangile, la prédication de Jésus. Tous ceux qui entendent cet appel à la repentance et qui répondent favorablement sont en effet au bénéfice du pardon de notre Dieu. Et à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, Jésus dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Jésus nous a pardonné toutes nos fautes, écrit l'apôtre Paul, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements de Dieu. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. C'est vers ce Dieu qui pardonne que nous sommes invités à venir, à revenir, pour recevoir le pardon, pour recevoir le pardon de notre désobéissance, de notre péché, et vivre dans la soumission et dans l'écoute du Seigneur. Si nous pouvons être au bénéfice de ce pardon, c'est parce que lui a payé le salaire de notre désobéissance, c'est parce que lui a réglé la facture de notre dette. Grâce à sa mort et à sa résurrection, Jésus nous offre maintenant la vie éternelle, le salut, le pardon pour quiconque croit en lui et à quiconque qui met sa confiance en lui, qui fait de lui son sauveur et son seigneur, son maître aussi personnel. Mais comme pour les rois de notre psaume, ce temps de grâce cédera un jour la place au juste jugement de Dieu. D'où la nécessité et l'urgence de répondre aussi à cet appel du Christ avant que ce soit trop tard. Personne ne peut nous assurer que ce ne sera pas encore trop tard ce soir ou dans un siècle. Face au jugement à venir, seul le Seigneur peut être un refuge pour l'homme. Voilà pourquoi notre psaume rappelle, pour terminer, le bonheur d'avoir Dieu pour refuge. Heureux tous dont le Seigneur est refuge, c'est le verset 12 et nous l'avons bien chanté au début du culte. Le psalmiste invite les opposants du Seigneur à déposer les armes et à prendre conscience enfin qu'il est leur seule espérance face au jugement à venir. Il est le seul refuge qui leur reste face au jugement à venir. Le Seigneur non seulement pardonnera leur révolte, s'ils se détournent, s'ils arrêtent leur désobéissance, leur obstination, non seulement le Seigneur pardonnera leur révolte, mais aussi il les bénira et il les rendra heureux. En Jésus-Christ, nous avons le pardon de nos péchés. Nous sommes de ceux qui sont déclarés heureux, bienheureux, ici le serment sur la montagne, heureux, Jésus déclare ses disciples des hommes heureux, nous déclare des hommes, des femmes heureux et heureuses, bienheureux. Voilà pourquoi nous pouvons nous approprier complètement ces paroles de David au psaume 32. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient plus compte de sa faute. Ceux qui veulent être heureux, échapper au jugement à venir, n'ont qu'à revenir à Christ et accepter son pardon et se mettre sous sa protection, c'est-à-dire sous son autorité. C'est Christ que Dieu a choisi pour nous sauver. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Il a choisi le Christ, Jésus-Christ, tout comme il n'a pas choisi d'autres moyens. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, disent les apôtres dans Actes chapitre 4. Tout comme les rois du psaume 2, doivent accepter simplement et humblement le choix de Dieu, le choix que Dieu fait de son Messie, nous aussi nous devons accepter le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ si nous voulons être au bénéfice de ce refuge sûr face à la colère et au jugement à venir. Nous ne pouvons pas contester les choix de Dieu. Nous ne pouvons pas lui dire, mais pourquoi uniquement par Christ? Pourquoi tous les chemins ne mènent pas à Rome? Dieu a décidé qu'un seul chemin qui mène vers lui. Personne ne peut lui contester cela. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé en retour? Tout vient de lui. Tout subsiste par lui, pour lui, et à lui soit la gloire.